VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Libreville, bienvenue à notre journal. CPI, Cour pénale internationale de la Haye, le tribunal devrait décider ce mercredi si l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé seront libérés suite à leur acquittement par la CPI. Les deux hauts responsables ivoiriens ont été reconnus non coupables mardi des accusations de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire qui a fait plus de 3000 morts. La décision de la Cour est attendue aujourd'hui et ce, après une audience ce matin où les procureurs de la CPI ont annoncé leur intention de faire appel de l'acquittement des deux inculpés et exhorté les juges à ne pas autoriser leur retour en Côte d'Ivoire. La mise en liberté des deux hommes, ordonnée par les juges, avait été suspendue hier dans l'attente de cette audience pour permettre aux procureurs de faire part de leur possible objection à leur libération. À l'audience, les procureurs ont évoqué ce qu'ils ont qualifié de raison exceptionnelle de s'opposer à la libération inconditionnelle de l'ex-président Laurent Gbagbo. Ils ont mentionné notamment un risque concret que l'ancien président ne comparaisse pas devant la CPI en cas d'un procès en appel. Mais l'accusation a toutefois déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à une mise en liberté dans un pays membre de la CPI, excepté la Côte d'Ivoire, si le risque de fuite peut-être atténué en imposant une série de conditions. Agitation anglophone au Cameroun, plus de 30 voyageurs ont été enlevés mardi par des séparatistes anglophones présumés sur un axe routier de la région du Sud-Ouest, une des deux régions anglophones du pays en proie à un conflit armé. C'est ce qu'a appris l'AFP ce mercredi auprès d'une source locale et d'une ONG. Les captifs ont été kidnappés hier sur l'axe reliant Boya à Kumba, a souligné cette source, proche des autorités de la région, confirmant une information d'un responsable d'une ONG de la zone. Gabon, le président gabonais Ali Bongo Ondimba est finalement de retour dans son pays. Il a reçu mardi le serment de son nouveau gouvernement à Libreville, mais l'événement n'a pas été retransmis en direct par les chaînes publiques, ce qui alimente davantage les débats sur l'état de santé du président Bongo au sein de l'opinion publique. De Libreville, plus de détails avec notre correspondant Ismaël Obianze.
Affaibli et se relevant de plusieurs semaines de maladie, Ali Bongo Ondimba retrouve son gouvernement et ses institutions debout dans l'une des pièces retenues pour abriter l'audience solennelle de prestation de serment du nouveau cabinet Julien Kerbekale. Image interdite aux paparazzi, sait-on jamais, et à plusieurs médias nationaux et internationaux, par rassurant pour une certaine opinion déjà dubitative sur le retour du président à Libreville, car comme de tradition, l'événement n'a pas été retransmis en direct par les chaînes publiques.
Je ne l'ai pas vu. Vraiment, pas du tout. Je ne sais pas s'il est là ou pas.
Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, je n'ai rien à dire.
Moi, personnellement, j'ai cru entendre qu'il rentrait à 1h du matin. Et finalement, jusque-là, j'ai pas de nouvelles, quoi. Et depuis son absence, on est là, on attend son retour.
D'autres citoyens semblent bien moins intéressés par la nouvelle du jour qui s'invite dans tous les milieux de Libreville. C'est le cas de Priska, technicien de surface dans un cabinet d'études d'avocat.
Moi, je ne sais pas qu'il est là. En tout cas, ça ne me dit rien. Ça ne m'intéresse pas. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ce n'est pas mon problème.
Le retour d'Ali Bongo Ondimba est considéré par Anna Berki, journaliste, comme une nécessité pour restaurer l'autorité de l'État au Gabon.
Ça augure d'une certaine stabilité parce que le pays en a bien besoin. D'ailleurs, économiquement, je crois que pour nos investisseurs, il est important d'avoir dans une barque un commandant qui sache donner le cap et continuer bien sûr à conduire donc celle-ci à bon port.
Le rituel de prestation de serment du nouveau gouvernement gabonais n'a plus été suivi du tout premier conseil des ministres de l'année comme prévu. Le rendez-vous convoqué par le numéro 1 gabonais est repoussé à une date ultérieure selon les sources proches du dossier. Libreville, Ismaël Obianze pour la Voix de l'Amérique.
Au Soudan, la police a tiré ce mercredi des gaz lacrymogènes contre une manifestation anti-gouvernementale à Kassala, la première à se tenir dans cette ville de l'est du pays depuis le début du mouvement de contestation du président Omar al-Béchir. Les manifestants ont défilé dans la rue au cri de « liberté, justice et paix ». Avant l'intervention de la police, ont précisé les témoins contactés par téléphone par l'AFP. Cette manifestation à Kassala a eu lieu quelques jours après un rassemblement de soutien au président Omar al-Béchir dans cette même ville.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Kenya, les forces de sécurité ont mis un terme ce matin à l'attaque des islamistes somaliens Shebab contre un complexe hôtelier de Nairobi, la capitale. Et ce, après un siège qui a duré environ 20 heures. Le président kényan Uhuru Kenyatta, qui a annoncé personnellement la nouvelle, a assuré que tous les terroristes ont été éliminés. Plus de détails avec Anna Bergson.
Je peux vous confirmer que l'opération de sécurité au complexe Dusit s'est achevée et que tous les terroristes ont été éliminés, a déclaré le président Uhuru Kenyatta lors d'une conférence de presse. Il a noté que l'attaque a fait 14 morts et un nombre non précisé de blessés. Plus de 700 civils ont été évacués, selon lui, du complexe depuis le début de l'attaque jusqu'aux petites heures du matin. Le nombre total de djihadistes n'était pas clair dans l'immédiat. Une source policière a indiqué de son côté que deux assaillants ont été tués mercredi matin au terme d'un échange de tirs prolongé. De son côté, une source à la morgue a indiqué à l'AFP que 15 dépouilles ont été enregistrées. 11 Kenyans, un Américain, un Britannique et deux personnes dont la nationalité n'a pas pu être établie dans l'immédiat. Des sources policières avaient elles aussi fait état d'au moins 15 morts. Les Shebab somaliens, groupe lié à Al-Qaïda derrière l'assaut du centre commercial Westgate ayant fait 67 morts en 2013, ont revendiqué très rapidement l'attaque de mardi.
Zimbabwe, le pasteur Ivan Mawarire, figure éminente de la société civile zimbabwéenne, a été arrêté par la police mercredi à son domicile de Harare, la capitale. Cette arrestation survient au troisième jour d'une violente grève générale contre la hausse des prix du pétrole. Les précisions avec Idrissa Seloudia.
Porte-drapeau des manifestations antigouvernementales de 2016, M. Mawarire a appelé à soutenir la grève lancée par le principal syndicat du pays, grève qui a tourné en fronde politique contre le président Emmerson Mnangagwa. La police en armes a encerclé le domicile de M. Mawarire en début de matinée. Le passeur en a été extrait deux heures plus tard jusqu'à un fourgon. Ils affirment qu'il a incité à la violence par le biais de Twitter et des réseaux sociaux, a déclaré son avocate Béatrice Mutetwa aux journalistes présents. Le principal syndicat du Zimbabwe a appelé à trois jours de grève générale après l'annonce samedi soir par le président Emmerson Mnangagwa d'une forte hausse des prix du carburant dans un pays dévasté par la crise économique. De violentes manifestations de colère ont éclaté depuis lundi dans tout le pays, notamment dans les deux plus grandes villes du pays, Harare et Bulawayo. La police a sévèrement réprimé ces manifestations, faisant au moins trois morts et de nombreux blessés. Au moins 200 personnes ont été arrêtées.
Royaume-Uni, la première ministre britannique Theresa May affronte aujourd'hui une motion pouvant faire tomber son gouvernement. La motion intervient au lendemain du désaveu des députés britanniques qui ont rejeté à une majorité écrasante le Brexit, son accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce vote historique a plongé le pays dans un flou quant à son avenir à deux mois et demi du Brexit prévu le 29 mars. John Lydon.
432 voix contre et 202 voix pour. La Chambre des communes a refusé l'accord des divorces malgré une ultime mise en garde de Theresa May. Nous avons le devoir de respecter le résultat du référendum du 23 juin 2016, a-t-elle déclaré dans la Chambre des communes, pleine à craquer, peu avant le début du vote. Le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a dénoncé un mauvais accord et réclamé des législatives anticipées. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, estime pour sa part que le rejet par le Parlement britannique de l'accord sur le Brexit augmente le risque d'un divorce sans accord. Il appelle le Royaume-Uni à clarifier ses intentions dès que possible. Le temps est presque écoulé, a déclaré le président de l'exécutif européen juste après le vote britannique. Le Royaume-Uni doit en principe quitter l'Union européenne le 29 mars. Un retrait ordonné prévu par l'accord aurait permis à Londres et Bruxelles de commencer à discuter de leurs futures relations commerciales.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.